Voilà, on va commencer notre cours du lundi à la mémoire de monsieur et de madame Cain. Juste quelques petites remarques avant de commencer. Ce n'était pas prévu, mais vous le recevrez en email aussi. Lundi prochain, il n'y aura pas cours. J'ai un empêchement de dernière minute que je n'ai su que hier, donc je ne pouvais pas prévenir. Donc dimanche prochain, lundi prochain, pardon, il n'y a pas cours, mais par contre, le lundi de Hanouka, oui, il y aura cours le matin. On fera bien sûr un cours sur Hanouka. Donc lundi prochain, pas cours, lundi de Hanouka, il y a cours. Je tenais aussi à vous dire que demain soir, je donne un cours chez la famille Attali. Ceux qui sont intéressés peuvent se renseigner chez monsieur Attali. Vous voyez la belle casquette là-bas? Sous la casquette, vous voyez un beau visage? C'est monsieur Attali. Très bien. Donc, vous pouvez lui demander, ceux qui sont intéressés, l'adresse, etc. Demain soir, un cours. Je tenais aussi à préciser, vous le savez peut-être déjà, que le premier lundi de Hanouka, donc le deuxième soir de Hanouka, nous faisons en bas une soirée guitare d'Ivrei Torah, avec un ami à moi qui est en même temps guitariste et chanteur. Et donc, une chanson, un Dvar Torah, pendant à peu près... Comment ? Ouais, à peu près. 5 minutes Dvar Torah, 5 minutes chanson. Et donc, ça vaut la peine de venir. Ça nous fera une soirée détente. Le premier lundi, donc, de Hanouka. Ben, le premier lundi de Hanouka. Je crois que Hanouka tombe un dimanche soir, donc c'est le lendemain. Voilà. Le deuxième soir de Hanouka. Donc je pense qu'on a tout annoncé et on va pouvoir commencer notre cours. Alors j'avoue que j'ai hésité, vous allez tout de suite comprendre, quand j'ai choisi le thème d'aujourd'hui, parce que c'est un thème dont j'ai déjà parlé, mais c'était plus fort que moi. J'avais vraiment besoin d'en reparler. Comme vous le savez, la définition d'un bon enseignant, c'est qu'il enseigne d'abord pour lui-même. Et comme il vit ce qu'il enseigne, alors c'est bien pour les autres aussi. C'est la différence entre un enseignant de Torah et un professeur. Le professeur, il est là pour ses élèves. Mais lui, ça le barbe, ce qu'il est en train de dire, généralement. Mais un enseignant de Torah, il enseigne pour lui. Et en même temps, les autres en profitent. Donc j'avais besoin pour moi de réenseigner ce que j'ai déjà enseigné. Et c'est la fin du prophète Obadia que nous allons lire ce Shabbat après la paracha. Nous allons lire le prophète Obadia. Et la fin est extraordinaire. Dès qu'on va le lire, bien sûr, vous allez vous souvenir de ces cours. Mais je vais bien sûr rajouter des notions dont je pense ne pas encore avoir parlé, qui va donner quelque chose de nouveau, en tous les cas au début de ce cours que vous connaissez déjà. D'abord, qui était le prophète Obadia? Le prophète Obadia, d'après notre tradition, était un converti du peuple de Édom, c'est-à-dire donc du peuple fondé par Ésav lui-même. Et nos maîtres expliquent que tous les prophètes, même les plus grands prophètes, comme Ésaïe, comme Ézéchiel, comme Jérémie, tous ont essayé de voir comment se passerait la fin du dernier exil, le nôtre, l'exil de Édom, l'exil de Ésav. Mais Dieu n'a pas révélé à aucun des plus grands prophètes d'Israël ce qui se passerait véritablement. Et le seul qui a mérité de pouvoir parler de la fin du dernier exil, c'est le prophète Obadia. Et nos maîtres disent pourquoi ? Parce qu'il fallait quelqu'un qui vienne de chez eux pour pouvoir parler de la fin de ce dernier exil, l'exil de Édom, l'exil de Ésav. Je tiens juste à préciser quelque chose d'important qui n'a rien à voir avec ce qu'on va lire. Le Malbim, qui est, on pourrait l'appeler le Rashi de la Bible, pas de la Torah, mais de la Bible elle-même, c'est-à-dire qui commence à partir de Josué jusqu'à la fin de la Bible, ce qu'on appelle nous le Nar, Nevim, Ktuvim. Le Malbim a expliqué, je crois, dans le prophète Ézéchiel, quelque chose d'extraordinaire, dont on va revoir quelques éléments aujourd'hui. C'est que, quel est le rapport? Pourquoi on appelle le dernier exil l'exil de Édom? Alors qu'on sait très bien que Édom était un peuple qui vivait où? Le sud de la Jordanie. le sud-est de la Jordanie. C'est ça Édom, toute la région de Eilat aujourd'hui, mais du côté jordanien. Donc, quel rapport entre le dernier exil, qui est l'exil de Rome, et Édom? Pourquoi nos maîtres ont appelé le dernier exil Esav ou Édom? Alors, on a une tradition, bien sûr, millénaire, bien avant même la naissance des Romains, qui explique une chose extraordinaire que le Malbim reprend, qu'en vérité, à l'époque de Yoav qui était le général d'armée de David, on a toujours été en guerre contre Édom, puisque Esav ne nous a jamais pardonné finalement ce qui s'est passé avec son frère Yaakov, et à part les Philistins avec lesquels on a toujours été en guerre jusqu'à aujourd'hui, mais à l'époque biblique toujours, il y avait un autre peuple avec lequel on était toujours en guerre, c'était Édom, parce que c'est Esav, et surtout qu'il était à notre frontière, il était dans le sud-est. Et à l'époque des juges, très souvent c'est lui qui gagnait, des fois c'était nous, bref, c'était, on pourrait appeler ça la guerre des 100 ans entre la France et l'Allemagne. D'accord? Une fois c'est nous qui prenons l'Alsace, une fois c'est eux, etc. Et à l'époque du roi David, le roi David a décidé de mettre fin à cette guerre avec Édom, et il a préparé une très 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 grande bataille contre Édom, dirigée par Yoav, c'est marqué explicitement dans le Nar. Et Yoav a attaqué Édom, et il a vaincu Édom, et il a détruit complètement Édom. Et une grande partie des survivants de Édom ont pris des bateaux, ont traversé la Méditerranée, et se sont retrouvés de l'autre côté. Et d'après notre tradition, c'est eux les prémices de l'Empire romain. Les prémices de l'Empire romain, ils se sont installés un peu partout, en France, en Allemagne, enfin ce qui va devenir la France, là, etc. Et surtout en Italie. Et c'est eux qui vont donner les prémices de l'Empire romain, d'où notre tradition qui appelle le dernier exil, l'exil de Rome, puis après l'exil occidental, qui l'appelle Édom, alors qu'apparemment il n'y a aucun lien entre Édom et Rome, parce que les fondateurs, les plus éloignés bien évidemment, de ce qui deviendra après l'Empire romain, a été fondé par Édom. Et il y a d'autres notions qui sont expliquées, etc. Par exemple, le roi Hérode, l'un des pires ennemis d'Israël, puisqu'il a fait massacrer pratiquement tous les maîtres d'Israël à son époque, c'était un homme corrompu qui était à la solde de Rome, c'est lui qui a fait massacrer entre autres toute la famille des Hashmonaïm, la fête de Hanouka. Donc un grand despote, un grand etc., lui-même était un converti de Édom. Ça, on le sait, c'est dans le Talmud explicitement. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce qui s'est passé quand Édom a été détruit? Une grande partie a traversé la Méditerranée et s'est retrouvée en Europe, dont une partie va fonder ce qui va devenir l'Empire de Rome, et une autre partie a été acceptée par Israël, ils ont demandé à se convertir, on ne les a pas repoussés, ils se sont convertis, mais entre autres sont sortis de certains grands malfaiteurs, comme le roi Hérode par exemple, qui au départ était un Édomite, converti, etc. Donc voilà un petit peu l'histoire de Édom, et c'est pour ça, encore une fois, qu'on appelle notre dernier exil l'exil de Édom. Donc je reviens maintenant à ce texte. Nos maîtres disent que pourquoi seulement le prophète Obadia, qui fait partie des plus grands prophètes d'Israël, a eu le mérite de voir la fin de notre exil? Parce que lui-même, étant un converti de Édom, Hachem lui a permis à lui de voir ce qu'il adviendrait finalement de la civilisation édomique. Alors évidemment, ce que nous allons lire, tout est codé, tout est caché, et on n'a pas le temps de pouvoir rentrer vraiment dans le décodage des choses, tout simplement parce que, comme toutes les prophéties d'Israël, 99,9% est caché derrière ce qu'on lit. Et ce qu'on lit, bon, ben, c'est uniquement la vitrine. Mais le vrai sens des prophéties, qui le comprend, c'est peut-être donné à 2 ou 3 maîtres par génération de vraiment pouvoir rentrer dans le décodage de ces prophéties-là. Donc, on est à la fin de cette prophétie où le prophète Édom parle de la fin de Édom, de la fin de Esav, la fin du dernier exil. Et voilà ce que disent les derniers versets, et après on va lire avec les commentaires. Végalout achel azé, on est dans le verset 20. On le lira ce Shabbat dans toutes les synagogues. Végalut achel azé libné Israël. Alors, mot à mot, c'est très difficile à traduire. L'exil des Bnei Israël, le dernier exil des enfants d'Israël a commencé. Asher Knaanim. Ils ont été exilés chez les Cananéens. C'est tout à fait incompréhensible, puisque les Cananéens avaient disparu des siècles avant le dernier exil. Puisqu'au contraire, c'est eux qui étaient sur notre terre. Et on les a vaincus, on les a chassés, et on a repris la terre qu'ils nous avaient volée, puisque les Cananéens ne devaient pas s'installer sur cette terre-là, qui appartenait à Shem, comme on le sait. Ils ont quitté le continent africain, ils sont venus, ils ont massacré tous les Shémites, ils se sont installés à la place des Shémites, et Hachem a promis à Abraham que quand il sortirait d'Égypte, on reviendrait, on reprendrait cette terre. Mais en tout cas, le verset est absolument incompréhensible, on va voir comment nos maîtres l'expliquent. L'exil des enfants d'Israël, on parle du dernier exil, a commencé en Knaan, Asher Knaanim. De quel Cananéen on parle? On continue. Ad Tsarfat. Les Juifs ont commencé à être exilés quand Rome a détruit le deuxième temple. Ils ont été exilés dans Knaan, encore une fois c'est incompréhensible, et jusqu'en Tsarfat. D'accord? Tsarfat, je peux comprendre. La baguette, les petits pains au chocolat, etc. D'accord? Tous les matins, il achetait. La, 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 la. Très bien. Donc, je peux comprendre qu'on a été exilé en France. Mais Knaan. Et le verset continue. Végalout Yerushalayim. Où ont été exilés ceux qui étaient à Jérusalem? Parce que ceux qui étaient partout dans le territoire exilés se sont retrouvés soit en Knaan, soit en Tsarfat. Pour l'instant, on ne traduit pas, on va lire nos maîtres. Mais ceux qui étaient à Jérusalem, eux, où ont été exilés? À Cher Besfarad, ils ont été exilés en Sfarad. On va voir. C'est un prophète qui a écrit il y a plus de 3500 ans. Peut-être que Sfarad fait allusion à autre chose. Sfarad. Yarchou, tous ces exilés reviendront et s'installeront et aré à Negev, en Israël, dans toute la partie sud d'Israël. Et à ce moment-là, dernier verset, Ve'alou Moshi'im Ve'artzion, les libérés de Knaan, les libérés de Tsarfat et les libérés de Sfarad, monteront sur le mont Sinaï, Lishpot et Ar Esav, et il y aura le grand jugement de la fin des temps entre tous les rescapés de l'exil de Edom et tout ce qu'on a traversé. On montera sur le mont Sion, on peut comprendre Kepshuto, qu'il y aura peut-être un rendez-vous sur le mont Sion de tous les représentants de l'Occident avec les représentants d'Israël, et il y aura un grand débat. Qu'est-ce que vous nous avez fait? Attention, c'est un mishpat, là aussi. C'est-à-dire que c'est pas tout rose et tout... C'est pas... Il y a que les méchants, que les gentils. N'enregistrez pas ce que je vais dire maintenant. Parce que Ils ont aussi eu des fois des raisons de nous rentrer dedans. On a quand même donné des Madoff, on a donné des... Comment il s'appelle l'autre tordu, là, Weinstein, là? Weinstein, etc. Je veux dire... c'est pas tout blanc, tout noir. Je veux dire, les Youpins, ils ont aussi leur nez crochu, d'accord? Donc, il y aura un grand jugement. Pourquoi? Pour ci, pour ça, etc. On va voir. Et de ce grand jugement, Ve'aïta l'Hachem Ameloucha, la royauté sera redonnée à Hachem. Voilà. Il y aura un grand jugement entre nous et Edom, entre nous et Esav, Ve'aïta l'Hachem Ameloucha. Donc les deux derniers versets, qui sont bien sûr complètement codés, on va juste décoder un petit peu, nous disent que quand Rome a détruit Israël, il a envoyé... Parce que c'est le royaume de Yehuda qu'il a détruit. Les 10 tribus avaient déjà été exilées 50 ans auparavant. Et eux sont partis en Afghanistan, Pakistan, en Inde, etc. Mais en Europe, ont été exilés la tribu de Yehuda. Tous ceux qui étaient autour de Jérusalem ont été exilés en Knaan, qu'on va traduire, et en Tsarfat. Et ceux qui étaient à Jérusalem ont été exilés en Sfarad. Maintenant, regardons Rashi. Rashi a écrit son commentaire il y a plus de 1000 ans. On est d'accord? Il dit Omrim apotrim, ceux qui connaissent le secret des versets, potéar, ceux qui arrivent à ouvrir, à décoder en français, les décodeurs, nous ont enseigné, tsarfat, que tsarfat, le tsarfat biblique, hu amalchut shekorim Franz, c'est la royauté qu'on appelle la France. Svarad, Svarad, Yonatan Ben Uziel lui-même, Yonatan Ben Uziel qui a vécu il y a plus de 2500 ans. Yonatan Ben Uziel, c'est celui qui traduit la Torah ici sur le côté, qui était l'un des plus grands élèves de Hillel. Donc il a vécu il y a 2500 ans. Traduit, lui, Svarad, Spania. L'Espagne. Wow. Par contre, il y en a encore un qu'on n'a pas vu, c'est quoi ? Knaan. Alors maintenant, on va passer dans le Radak. Le Radak, un des plus grands commentaires de la Bible, qui a vécu aussi il y a de nombreux siècles. Et après, on verra ce que dit le Aven Ezra, qui lui aussi a vécu il y a plus de 500 ou 600 ans. Regardez ce qu'il dit le Radak. Rashi nous a expliqué uniquement donc Tsarfat, France, Svarad, Spania. Très bien. Regardez maintenant ce qu'il dit le Radak. Omrim Bekabala. Dans la Kabbalah, on a une tradition qui nous explique qu'Ibne Eretz Almania ayuk na'anim. Les fameux Cananéens sont les Allemands. À chaque fois que je lis ce commentaire, je peux vous le dire, je ne fais pas du cinéma, je pleure. Quand je l'ai relu ce matin, j'ai pleuré. Vous allez comprendre pourquoi. Les Cananéens, on va être exilés chez les Cananéens, ce sont les Allemands. Ayuk na'anim, les fondateurs de l'Allemagne sont des Cananéens. Pourquoi ? Parce que de nombreux Cananéens ont pris la fuite lorsque Yehoshua a conquis la terre. Et quand tu prends la fuite entre autres en rentrant dans un bateau. Et quand tu traverses la mer, tu vas te retrouver où ? Sur le port de Marseille. Oh. Très bien. Ou à Nice. Mais ils sont arrivés là-bas. Mais il y avait un groupe de Cananéens qui, lui, a continué et est arrivé en Allemagne. Quand Yehoshua a chassé les Cananéens, une partie des Cananéens ont traversé la mer. Et ils sont arrivés dans le pays qui s'appelle aujourd'hui à l'époque où le commentaire écrit, qui s'appelle l'Allemagne. Chez Korim, qu'on appelle aussi Eretz Ashkenaz. Et enfin, le Eben Ezra, Radak. Maintenant, le Eben Ezra, le grand commentaire, je crois qu'il venait de l'Irak, lui. Espagne, pardon, excusez-moi. Non, je confonds avec le Rida, excusez-moi. Il venait d'Espagne, lui. Regardez ce qu'il dit. C'est la même chose. Asher Knaanim, c'est qui les Cananéens chez qui on a été exilés? Shamanu Mipigdolim. On a une tradition de génération de gens qui vient des plus grands maîtres d'Israël. Qui Eretz Almania, que la terre qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne, et Maknaaniim, sont en vérité des Cananéens, au départ bien sûr, chez Baruch Mipne Bnei Israël, qui ont fui devant Israël, Bevoam et la Aretz, quand ils sont arrivés en Israël. Gam, de même, Tsarfat, Ifrans, Tsarfat c'est la France, et Svarad, Espagna. Pourquoi j'ai pleuré quand, particulièrement le commentaire Knaan, Allemagne? Mais parce que vous vous rendez compte que nos maîtres, des siècles, des millénaires avant la Shoah, nous avaient inconsciemment déjà prévenu qu'il y aurait un jour une Shoah. Mais parce que c'est, finalement, pourquoi la Shoah est venue d'Allemagne? Mais parce que les Cananéens avaient en eux, dans leur ADN, une tradition qu'ils transmettaient. de père en fils et de mère en fils. D'accord ? Et à Rourknaan, mais aussi par rapport aux ceux qui sont installés en Allemagne, ils avaient une vengeance qu'ils voulaient absolument réaliser. Eux avaient été chassés de ce qu'eux appelaient leur terre, bien que ce n'était pas leur terre, mais peu importe, ceux qui ont été chassés sont, oui, nés là-bas. Puisque les Cananéens nous ont volé cette terre 400 ans avant que Israël ne revienne. Donc ceux qui étaient nés depuis 50 ans, 100 ans, 200 ans, eux se croyaient véritablement les possesseurs de cette terre-là. Bien qu'au départ, il y avait eu un génocide des Cananéens qui avait exterminé tous les Chémites et qui avait pris la terre. Mais ça, les générations l'avaient oublié. À cette époque-là, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de bibliothèque. Eux-mêmes ne savaient peut-être pas comment ils étaient arrivés sur cette terre-là. Donc eux, ils voyaient les Juifs arriver, une grande partie sont tués, d'autres s'enfuient. Ils arrivent en Allemagne. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disaient tous les ans? Les Shana Abba, Be'eretz Knaan. Ben oui, l'an prochain, à Knaan. Parce qu'ils rêvaient de revenir un jour sur leur terre, et ils avaient une haine féroce des Juifs. Comprenez? Et comme par hasard, à quelle époque il y a eu la Shoah? Quand les Juifs commençaient à revenir, après 2000 ans d'exil, sur leur terre. C'est à ce moment-là que le réveil cananéen, dont les Allemands étaient inconscients, mais c'est absolument incroyable. Il faut que ce soit nous les Juifs qui expliquons aux Allemands pourquoi ils nous ont massacrés. Parce que dans l'ADN allemand, il y avait le problème cananéen, et tant qu'on était complètement exilés, bon, on était massacrés un petit peu de temps en temps par les Polonais, par les Ukrainiens, par les ci, par les ça. Bon, ben c'était Stam, comme on fait, on va jouer au foot, quoi. On tue un Juif. Mais quand les Juifs ont commencé à revenir sur leur terre, ceux qui se sont vraiment réveillés, c'est-à-dire l'ADN s'est réveillé, et eux-mêmes n'en étaient pas conscients, c'est les Cananéens qui ont fondé l'Allemagne. Absolument incroyable. C'est de la folie. Maintenant, vous comprenez. On comprend. Dans le même verset qui dit que les Juifs ont été exilés en Knaan chez les Allemands, et aussi à Tsarfat, et en France, puisque Tsarfat c'est France. Maintenant vous comprenez d'où vient l'expression « mon cousin » Germain. Eh oui. Il faut que ça soit un raf qui explique aux Français d'où vient l'expression « mon cousin Germain ». Mais parce que une partie des Cananéens est partie en Allemagne et une autre partie est partie en France. Et donc ils s'appelaient les cousins Germains. Non mais c'est sérieux. Quel rapport entre mon cousin et mon cousin Germain? Parce que au départ, le royaume allemand et le royaume de France ont été fondés par des Cananéens, une partie en Allemagne et une partie en France. Mais dites-moi, quel est le seul gouvernement en Europe qui officiellement a travaillé avec, une partie a travaillé avec les Allemands pendant la Shoah? Le gouvernement de Pétain. Je ne dis pas que les Polonais, les Ukrainiens n'ont pas tué, eux aussi n'ont pas collaboré. Mais qu'un gouvernement officiel travaille main dans la main avec l'Allemagne, on comprend bien pourquoi ils s'appellent entre eux « mon cousin Germain ». Parce que dans leur ADN, au départ, une partie du peuple français, dans ses origines les plus lointaines, vient des Cananéens, ainsi que les Allemands. Mais évidemment, évidemment, évidemment. On va en arriver tout de suite. Voilà. Par contre, ceux qui étaient à Jérusalem ont été exilés en Espagne. Rashi dit, je ne l'ai pas lu Rashi, mais Rashi explique, qu'en vérité, tous les princes restés vivants, toute la famille royale restée vivante qui était à Jérusalem, ainsi que d'autres citoyens qui étaient à Jérusalem, ont été exilés en Espagne, Sfarad. De là, on a la preuve formelle que le Mashiach sera d'origine Sfarad. On est sauvé, ça ne sera pas un Ashkenaz, mon Rachel. Grâce à Dieu, s'imaginer. Mashiach Ashkenaz, c'est insupportable. Sfarad, ça va être plus cool. D'accord. Donc, Rashi dit que les nobles de la tribu de Yehuda ont été exilés au départ en Espagne. Alors c'est absolument incroyable. Maintenant vous comprenez pourquoi les juifs exilés vont s'appeler ou Sfaradim ou Ashkenaz. Parce que les deux pays qui finalement nous ont reçus, c'est l'Allemagne, Ashkenaz, Sfarad, l'Espagne. Et donc on va s'appeler, c'est pas par hasard qu'on s'appelle soit Ashkenaz. Pourquoi on s'appelle Ashkenaz? Mais il y avait beaucoup plus de juifs en Russie et en Pologne qu'en Allemagne. Les juifs ont vécu apparemment en Pologne, en Russie, en Ukraine, en Lituanie, beaucoup plus longtemps qu'en Allemagne. Alors pourquoi on s'appelle Ashkenaz? Parce que nos maîtres ont voulu nous faire passer le message que l'origine du Galout, les deux premiers endroits où les juifs sont arrivés, c'est en Allemagne, en France et en Espagne. Et c'est pour ça qu'on s'est appelé Ashkenaz, en référence à l'Allemagne, ou Sfarad. Et comme par hasard, quels sont les deux pays qui ont le plus chassé leurs juifs? L'Espagne et l'Allemagne. L'Inquisition, bien évidemment, et voilà. Alors, c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable. Mais qu'est-ce qu'on comprend dans ce verset aussi? Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Que finalement, je reprends le verset, « Végalou tachel azé livné Israël asher knaanim ad tsarfat. Végalou tirushalaim asher bisfarad. » Qu'est-ce qu'on comprend de là? Yarshu et Aria Negev. C'est-à-dire que le prophète Obadia est en train de nous révéler que l'un des signes éminents de la délivrance finale avant le Ve'aïta Hashem Amelucha, c'est le retour des Juifs de France et, il faut éteindre le portable, et en même temps d'Espagne. Mais ça ne peut pas être d'Espagne, car ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus vraiment de Juifs en Espagne. Mais 99,9% des juifs qui reviennent de France, ce sont des Sfaradim. 90% au moins. Ce qui veut dire qu'en vérité, on comprend bien ce que nous dit le prophète Obadia. C'est pour ça que ces trois choses sont dans le même verset. D'accord? Et maintenant, on comprend ce qui se passe. Quel est le premier niveau du secret du prophète Obadia? Que quand les Cananéens, qui sont les Allemands, vont se réveiller et vont nous exterminer, 3 ans après, il y aura la création de l'État d'Israël. Et quand les Juifs Sfaradim de France reviendront, alors là, on sera dans les derniers temps avant la délivrance finale. Voilà ce que dit le verset. Vous vous rendez compte? C'est absolument incroyable.
En France, avant que les Nord-Africains viennent,
c'était
que des
Ashkenazim. Oui, c'est sûr. Mais le verset dit que ça dépend du retour des Juifs de France et des Juifs de Sfarad. Or, dans notre réalité, qu'est-ce qu'on comprend? Que les Juifs de France sont des Sfaradim.
Il n'y a plus d'Ashkenazim en France.
Ils sont complètement assimilés pour la plupart. Mais disons que la communauté juive en France, depuis maintenant 62, est Sfarad. Et donc, tout juif qui monte de France aujourd'hui est un Sfarad d'origine, à 90%, d'accord? Donc, on a bien la preuve que le prophète Obadia parle des Allemands, des Français, des Sfaradim, c'est toute notre réalité contemporaine. Le prophète Obadia avait vu il y a 3500 ans ce qui allait se passer. C'est de la folie. Moi je dis c'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. Maintenant, je rajouterai quelque chose. Si vous lisez le livre de Josué, vous verrez combien Hachem reproche, entre autres à Josué, d'avoir fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Josué? Avant que ne commence la conquête, il a envoyé 3 lettres. Dans une lettre, il était marqué « Tous ceux qui veulent s'enfuir peuvent s'enfuir ». C'est les futurs Allemands. Tous ceux qui veulent se rendre peuvent se rendre, on leur fera rien. Par contre, il n'y en a aucun qui s'est rendu. Et tous ceux qui veulent se battre, qu'ils se préparent, on rentre. Sur ces 3 lettres, il y en a 2 qui ont été écoutées. Une partie a fui, sont devenus les Allemands et les Français, les cousins germains. Et une partie, la majorité, s'est battue. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Hachem envoie un prophète pour dire à Josué, d'accord, pourquoi tu ne m'as pas écouté? Pourquoi tu as osé laisser des Cananéens s'enfuir? Pourquoi tu as été clément avec eux? Eux n'ont pas été cléments il y a 400 ans quand ils sont venus. Ils ont massacré hommes, femmes, enfants jusqu'au dernier pour prendre leur terre et s'y installer. Pourquoi tu les as laissés s'enfuir? Mais Josué, comme on le sait, c'était un juif, d'accord? Et les juifs, comme on le sait, leur plus grand défaut, c'est quoi? C'est que quand on te claque sur une joue, tu tends l'autre joue. On est les seuls qui le faisons. Et donc, effectivement, c'est ce qu'il a fait. Vous voulez partir? Partez! Hachem lui a dit, imbécile, dans 3000 ans, il y aura Auschwitz et Treblinka à cause de ta gentillesse. Ça veut dire que mes amis, on comprend ici un remède absolument incroyable, que l'origine, mais ça ne faut pas l'enregistrer parce que ça va être tellement mal compris ce que je dis, parce que les gens adorent déformer ce que je dis, que l'origine de Auschwitz et Treblinka, d'accord, eh bien c'est nous-mêmes. On n'avait pas à laisser une partie des Cananéens s'enfuir et de fonder l'Allemagne. Oui. Oui, mais Shaul aussi qui a épargné Amalek et de là est sorti Amalek. Je dis à haute voix ce qu'il dit, extraordinaire. Ça va se reproduire dans l'histoire, merci. Shaul qui épargne Amalek, d'Amalek va sortir Aman et une fois de plus, une Shoah qui a failli se réaliser. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, l'origine de tout ce qui nous tombe sur la tête, eh ben c'est toujours nous. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Alors, surtout ne déformez pas ce que je dis. Ça n'excuse pas les Allemands, ça n'excuse pas la Shoah, qu'à Dieu ne plaise. Parce qu'il y a suffisamment d'imbéciles qui vont déformer mes propos et vont faire croire que c'est ce que je voulais dire. C'est pas ce que je dis. Évidemment que non. Mais si Joshua n'avait pas envoyé une lettre pour dire tous ceux qui veulent traverser la Méditerranée peuvent le faire, on n'attaque pas jusqu'à ce que ceux qui veulent partir peuvent partir. Si on avait attaqué tout de suite, personne n'aurait pu s'enfuir. Il n'y aurait pas eu Treblinka, il n'y aurait pas eu Auschwitz. Voilà le secret incroyable que Obadiah nous révèle. C'est de la folie.
Et il n'y aurait pas eu la création d'Israël.
Ou elle se serait faite d'une autre manière. Elle se serait faite d'une autre manière. Pas après l'ouverture en 45 des portes d'Auschwitz et en 48 l'État d'Israël. Voilà, ça se serait peut-être fait différemment. Maintenant, mes amis, oui.
De toute façon, c'est sûr, s'il y a du tzedek, tout ce qui nous arrive, on y est pour quelque chose.
Alors maintenant, on comprend pourquoi on dit qu'il y aura un mishpat. Dans un mishpat, c'est jamais blanc et noir dans un mishpat. Un mishpat, ça veut dire que chacun, finalement, a sa part de responsabilité. Et ce que je dis aujourd'hui, un jour, sera révélé. Si Shaul n'avait pas épargné Amalek, on n'aurait pas eu le risque de Shoah à l'époque de Haman. Et si Yahushua, qui a décidé lui-même d'envoyer une lettre pour que tous ceux qui veulent s'enfuir peuvent s'enfuir, s'il n'avait pas fait, il n'aurait peut-être pas eu la Shoah non plus. Donc, d'une certaine manière, on a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Parce que on n'écoute pas Hachem. Hachem a dit, Timre et Zecher Amalek, tu ne laisses aucun survivant d'Amalek. Timre, Nekouda, mais je peux pas, je suis un juif. Mais j'en ai rien à foutre que tu es un juif, c'est moi qui décide, dit le bon Dieu. D'accord? Alors je sais que c'est très difficile, mais... Et si Yoshua n'avait pas envoyé une lettre, on aurait peut-être pu éviter les camps de concentration. Oui.
Vous voulez dire que ce n'est pas la parole des prophètes qu'il faut écouter, mais c'est Hachem lui-même.
Oui, à travers les prophètes. C'est-à-dire que après que Yoshua a envoyé cette lettre, est venu un prophète, il lui a dit, mais pourquoi tu les as laissés s'enfuir? Et Yoshua, il a dit, mais pourquoi pas? Et ils ont le droit de s'enfuir. Mais Yoshua ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer des millénaires après. Comme nos maîtres nous révèlent que c'est eux qui ont fondé l'Allemagne. Vous comprenez? Ici, il y a un problème fondamental qui nous poursuit depuis avant notre naissance. C'est que le juif, il est très fort dans l'alphabet français. Il met toujours le C à côté du B. Trop bon. Voilà. C'est ça le grand problème du juif. Et c'est ce qui nous poursuit depuis des millénaires. On n'arrive pas à retrouver notre rigueur. On n'arrive pas. C'est notre défaut qu'on doit corriger. Chaque homme naît avec un défaut, d'accord ? Le défaut du juif, c'est qu'il ne sait pas être rigoureux d'une manière absolue quand il doit être rigoureux. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Comment ? Non, je n'ai pas dit tu es chas v'shalom. J'ai dit tu es celui qui dit clairement qu'il veut te tuer. Amalek dit clairement qu'il veut nous massacrer jusqu'au dernier. Pas de cadeau avec Amalek. D'accord ? Pas de cadeau avec Amalek. Pas de cadeau. Pas de cadeau. Dites-moi, je vous pose une question, mais je veux continuer parce qu'on a encore vraiment des choses à voir. N'importe quel autre peuple à qui il serait arrivé ce qui nous serait arrivé pendant la Shoah. Vous imaginez si on avait fait ça aux Irlandais ou aux Écossais ? Vous imaginez le nombre de cafés, de restaurants et d'autobus qui auraient sauté en Allemagne pendant des années après la guerre? Vous imaginez le nombre d'attentats et de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants allemands qui auraient été déchiquetés si on avait fait ça aux Irlandais ou aux Écossais? Il n'y a pas eu une seule revanche d'Israël à l'égard de l'Allemagne. Il n'y a pas un café qui a sauté. Pas un. Donc on est vraiment un peuple de baissés. Absolument. Ma vache.
Et des juifs venant de Palestine, de l'époque, ont essayé d'empoisonner des pains dans un camp où il y avait des soldats allemands. Ils n'ont pas mis assez de poison et ils ont eu simplement des indigestions.
Des indigestions. Bon, très bien. C'est pour ça que je dis toujours, cher ami, que pourquoi Hachem nous a choisis ? Parce qu'il sait que s'il réussit avec nous, avec les autres, ça sera facile. On continue. Maintenant, je veux expliquer plus profondément encore ce que dit le prophète dans le mot Tsarfat. Tsarfat, tsar, l'étroitesse du pat. Pat, c'est quoi en hébreu ? C'est le pain, c'est la baguette. Eh bien, le pain étroit, tsarfat. Ben oui, c'est ça la baguette. Tsar, pat. Comment qu'on dit en hébreu jusqu'à aujourd'hui le pain, pâte. D'ailleurs, en français, la pâte vient d'ailleurs de l'hébreu, comme beaucoup de mots dans beaucoup de langues. Pâte. Tsar, pâte, c'est la baguette. Non, mais là, je plaisante, mais c'est vrai. Tsar, pâte, c'est la baguette. D'accord ? Absolument. Mais le Zohar dit autre chose. Pâte, c'est la valeur numérique du mot Lilith. Lilith s'écrit lamet yud, tav, ça fait pâte. 480. C'est qui Lilith ? On va faire très très vite. C'est le symbole de la débauche féminine. D'accord ? Très bien. D'accord. Quel est le pays au monde, peut-être plus vraiment aujourd'hui, mais qui pendant des siècles est le symbole de... D'accord. Et comme par hasard, Tsarfat, tu es enfermé dans Lilith. Ça veut dire que quand tu es en France... Il y a le problème de Lilith. Donc on voit une allusion. Le Zohar dit pourquoi ce pays s'appelle Tsarfat. Le Zohar dit parce que c'est le pays où règne Lilith, qui est le symbole de la débauche féminine. Et comme par hasard, jusqu'à aujourd'hui, l'histoire n'a pas vraiment changé par rapport à la France. Très bien. Aujourd'hui, c'est plus aussi, il faut nuancer énormément ce que je dis, mais disons que pendant longtemps, quel est le premier endroit au monde où les femmes ont commencé à monter sur les plages, les jupes jusqu'en dessous, au-dessus du genou ? C'était en France. Quel est le premier endroit où les femmes ont commencé à se déshabiller, à sortir ? C'était en France. Comment ? Le bikini, ça a commencé en France, etc., etc., etc. Oui, et puis de toute façon, la Révolution française, une femme sur les barricades avec le sein nu. Donc, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire. Le Zohar qui a été écrit il y a 2000 ans, qui explique que Tsarfat, c'est l'endroit où tu es dans l'étroitesse de Lilith. Gematria Pat. Absolument incroyable. C'est de la folie. Maintenant, on va continuer, mes amis. On voit que lorsque les Juifs Sfaradim reviendront de France, ça sera le signe le plus grand de la délivrance. Vaïta Shamem Lucha. Mais mes amis, ça je l'ai déjà dit, mais attachez vos ceintures. Parce qu'on a beau le savoir, on ne tremble pas suffisamment par rapport à ce que je vais redire. L'histoire du retour en Israël, ça a commencé où et grâce à quoi? L'affaire Dreyfus en France. Et comme par hasard, le journaliste, il était quoi? Autrichien allemand. Puisque l'Allemagne et l'Autriche, c'est la même chose. Hein. Hitler n'était pas allemand, il était autrichien. Au départ, c'était le même royaume. L'Empire autrichien et allemand, pendant longtemps, c'était un seul royaume. C'est incroyable, on a tout le verset. Un Autrichien qui vient en France et qui voit un officier français. Et de là naît l'idée du retour en Israël, l'Allemagne et la France. Incroyable. Et dites-moi, qui est celui qui va construire avec son argent toutes les coopératives en Israël fin du 19e siècle et début du 20e siècle? Edmond de Rothschild. Or, comme par hasard, il y a trois Rothschild. Il y en a un en Autriche, il y en a un à Londres et il y en a un à Paris. Et comme par hasard, l'Autrichien et le Londonien sont plus riches que celui de France. Et quel est le seul qui va aider la reconstruction d'Israël? Celui de France. Donc le prophète Obadiah s'est pas trompé que lorsque la France, soit par le réveil de l'affaire Dreyfus, soit par l'argent de Edmond de Rothschild, c'est la France qui va jouer un rôle inimaginable pour le retour d'Israël. Voilà. Quel a été jusqu'à la guerre de 67 le pays le plus ami d'Israël de 48 à 67? La France. Qui a permis à Israël d'être l'un des premiers pays au monde à posséder la bombe atomique? La France, à l'époque de Pérez. Ça veut dire que finalement la France a joué un rôle inimaginable dans la reconstruction d'Israël sur sa terre. Et qui l'a dit le premier? Le prophète Obadiah. C'est absolument incroyable. Incroyable. Alors évidemment que les choses aujourd'hui sont plus comme elles ont été, mais malgré tout, et avant non plus, mais on voit qu'il y a cette relation absolument incroyable entre eux. Et ça, même en Israël, les gens ne s'en rendent pas suffisamment compte. C'est même pas enseigné dans l'histoire à l'école, de montrer, de mettre en lumière le rôle de la France pour la reconstruction d'Israël sur sa terre. Soit l'affaire Dreyfus, soit Edmond de Rothschild, soit l'amitié franco-israélienne jusqu'à la guerre des six jours, la bombe atomique, c'est la France qui nous a donné toute la recette et tout à l'époque de Pérez, c'est eux qui nous ont aidés à construire la bombe atomique. C'est absolument incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Et ouais, c'est ordinaire. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'un de nos élèves, qui n'est pas là aujourd'hui, vous vous rappelez l'affaire des vedettes de Cherbourg? Mais il y a un monsieur qui s'assit ici, d'accord? Et bien ce monsieur-là, c'est lui qui était l'officier de Cherbourg. Oui, le monsieur un peu fort, c'est lui qui était l'officier de Cherbourg. Et c'est lui que le Mossad a contacté. Et c'est lui qui a fermé les yeux pendant qu'on prenait les vedettes. Et des années après, sa récompense, c'est qu'il va se convertir. Et aujourd'hui, il est là, il suit tous les cours depuis des années, là en Israël. C'était lui qui était responsable des vedettes de Cherbourg. C'est lui, cet officier-là, qui est assis à côté. D'après aujourd'hui, il n'est pas là. Lui et son épouse. C'était lui qui était en charge des vedettes de Cherbourg. Et il a fermé les yeux, pourquoi? Parce qu'il se rendait compte que ce n'était pas normal. Israël avait payé les vedettes de Cherbourg. On ne les a pas volés, on a pris ce qui était à nous. Pourquoi la France fait un embargo sur les vedettes de Cherbourg? Eh bien lui, à cette époque-là, il était complètement un officier français. Il s'est converti des années après. Il ne pensait même pas dans ses rêves qu'un jour il se convertirait et qu'il vivrait en Israël. Voilà, l'officier des vedettes de Cherbourg. Très bien, on continue. Encore un petit instant. Maintenant, je voudrais terminer par quelque chose d'un peu plus thoraïque, bien que c'est très thoraïque tout ce qu'on a dit, mais on a parlé de l'histoire, en même temps de la Torah, mais je voudrais revenir sur une notion. Pourquoi précisément, finalement, La France joue un rôle tellement, tellement important dans le retour d'Israël sur sa terre, au point que c'est le signe éminent de la délivrance finale. Il y a une raison très profonde à cela. C'est que finalement, quel est le signe de la délivrance finale? Ça, je l'ai expliqué dans des milliers de cours. On va simplement le revoir avec une approche un peu différente. Bayom Ahouya Hashem Echad Ushmo Echad. Ça veut dire le retour à l'unité entre le monde d'en haut, le monde d'en bas, entre l'âme et le corps, entre la croyance et l'action, entre la prière et l'action. Parce qu'on sait très bien qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on est trop du côté de la prière, où on est trop du côté de l'action, où on est trop en haut, où on est trop en bas. Évidemment qu'il y a énormément de nuances et beaucoup, et d'avoir des milliers surtout aujourd'hui en Israël qui essayent d'être au juste milieu, mais très schématiquement dans le monde, ou bien c'est la religion qui prime et qui devient politique, comme dans l'islam, ou bien c'est la laïcité qui prime et qui devient politique, comme en Occident, etc. Ici en Israël, on est sur le même modèle que l'Occident, c'est-à-dire que la politique n'a rien à voir avec, est censée n'avoir rien à voir avec la religion. La foi, c'est une chose, la politique, c'est une autre. Donc, cette séparation, finalement, entre l'Église et l'État, ou entre la synagogue et l'État, en hébreu, ça sonne très bien, c'est la séparation entre la Knesset et Beta Knesset. Ça sonne bien en hébreu. La séparation entre Knesset et Beta Knesset. Très bien. Et dans le langage plus moderne, séparation entre l'Église et l'État. Bien qu'en Amérique, je veux dire, il y a, au moins sur le dollar, il n'y a pas de séparation, puisque Dieu est avec nous sur le dollar. Mais bon, seulement sur le dollar. Et le quoi qu'il en soit, quel est le pays, et encore une fois, c'est d'une providence, qui est l'initiateur de la séparation entre l'Église et l'État? Ben, c'est la France. Qui est le fondateur de la civilisation moderne et occidentale? La Révolution française, mes amis. C'est les Français qui ont créé le monde moderne. La Révolution française. Car dans tous les pays du monde, c'était l'alliance mafionérique entre le clergé et la noblesse. Et le peuple, c'était un peuple de paysans ou d'esclaves, etc. Toutes les révolutions qui sont venues après, comme en Angleterre, plus ou moins, parce que malgré tout la reine est restée, la révolution bolchévique sont la conséquence directe de la révolution française. La révolution française avec ses grands principes de liberté, fraternité, égalité, et Dieu à l'exil, Dieu à l'église. Un point c'est tout. Tu peux continuer à croire en Dieu, mais pas au Parlement. L'État est dirigé par les laïcs. Même Israël a repris ce modèle-là. Et même Israël a repris ce modèle-là, avec des nuances sans doute. Mais quoi qu'il en soit, on correspond plus au mode occidental qu'au mode davidien, ou au mode biblique, évidemment. Voilà. Donc finalement, c'est la France qui a séparé l'âme du corps, le monde d'en haut du monde d'en bas, la prière de l'action, la malchoute, la royauté, c'est-à-dire la direction du pays, de la foi, de la croyance. Comment? Et, incroyable, vous avez deviné ce que j'allais dire, et c'est ça le symbole de la guillotine. Le symbole de la guillotine, c'est quoi? Ben, tu sépares le haut du bas, à l'endroit du cou. Or, comment est appelé le Beth Amikdash? Le cou du monde. Pourquoi il s'appelle le cou du monde, le Beth Amikdash? Parce qu'il relie le monde d'en haut au monde d'en bas. Et il y avait un symbole dans cette mise à mort de la guillotine. Ce symbole est qu'on sépare le monde d'en haut du monde d'en bas, bien évidemment. Et comme par hasard, plus de 2200 ans avant la Révolution, donc plus de 2000 ans avant la Révolution française, puisqu'elle a eu lieu à peu près 300 ans, plus de 2000 ans, un peu plus ou moins avant la Révolution française, qu'est-ce que nous disent nos maîtres dans le Midrash? Que la tête de Ésav est enterrée dans le caveau des pères, dans les bras de Yitzhak. Ça veut dire qu'on a récupéré sa tête. Quel est le message? Comment nos maîtres peuvent nous envoyer des codes pareils? Il y a plus de 2000 ans. La tête de Ésav. Ça veut dire que nos maîtres font allusion au jour où viendra la Révolution française et qu'on coupera les têtes. On voudra séparer le monde de l'action du monde de la prière. On dira à Dieu, reste en haut et fiche-nous la paix, nous on est en bas. On coupera la tête. Mais le peuple juif récupère la tête de Ésav, comme pour dire, vous inquiétez pas, un jour on remettra la tête sur le corps. Un jour on remettra la tête sur le corps. Un jour viendra où Dieu sera un et son nom sera un. Donc, on comprend qu'effectivement, si j'ose dire, nous, juifs venant de France, qui d'une certaine manière avons vécu plus que n'importe quel autre peuple, ce problème de la séparation entre la foi et l'action, on comprend que finalement, on a une responsabilité énorme pour la reconstruction du monde et de réunir à nouveau Knesset et Beth Knesset. Bon, c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi quelque chose de tout à fait providentiel. La grande majorité des juifs français en Israël sont de droite ou de gauche ? De droite. Donc sont beaucoup plus attachés à l'identité juive reconstruite qu'à la gauche qui, elle, c'est la laïcité comme la religion absolue. Alors que dans le monde de droite, il y a beaucoup plus de place, on pourrait dire, pour l'identité biblique, l'identité, bon, moi j'aime pas le mot religieux, mais l'identité religieuse malgré tout. Donc c'est vrai qu'on voit que finalement, dans le monde francophone en Israël, il y a ce besoin finalement de retrouver une identité juive authentique, plus encore que celle qu'on avait en France, où bon, chacun était comme il était. Et d'Afghan venant en Israël, on le voit dans la grande majorité, les juifs francophones, je parle, se renforcent beaucoup plus dans la Torah que quand ils étaient en France. Comme s'il y avait quelque chose dans le subconscient qui nous faisait comprendre que notre retour en Israël est beaucoup plus qu'un simple retour, comme les Américains reviennent, ou comme les Belges reviennent, ou les Russes reviennent, etc. Que nous, on a aussi un rôle très particulier par rapport à la reconstruction de l'identité juive authentique, qui après sera la lumière du monde et qui se répandra partout, où finalement on réunira à nouveau l'âme et le corps, l'action et la foi. Je terminerai juste avec une remarque qui est très 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 importante. Finalement, qu'est-ce qui va sortir de ce Mishpat ? Ve'aita l'Hashem Ameloucha. Le prophète Obadia nous dit, et Hachem aura à nouveau la malchoute. Ça veut dire quoi, Hachem aura à nouveau la malchoute? Ça veut dire que les hommes, eux, il n'y aura plus de dirigeants dans les peuples. Évidemment qu'il y aura des dirigeants dans les peuples. Mais chaque dirigeant dans chaque peuple, les 70 peuples construits, chacun saura qu'il n'est que l'associé d'Hachem, qui, on lui redonne la meloucha. Les hommes ont toujours eu la meloucha. Il y a toujours eu dans toutes les générations, dans toutes les civilisations, il y a eu des dirigeants. Mais par contre, qui est celui qui a perdu la royauté complètement? C'est Hachem. Puisque, ou bien à l'époque des civilisations croyantes, c'était pas Hachem non plus, puisque c'était l'idolâtrie, les dieux. Donc, en vérité, Hachem, on peut dire qu'il n'a jamais pratiquement, à l'arrière, à l'époque de David, à l'époque du roi Salomon, à l'époque de quelques juges qui étaient des tzadikim, mais dans pratiquement toute l'histoire, Hachem n'a jamais eu vraiment la royauté. Parce que soit c'était dans les époques croyantes, mais c'était pas Dieu, c'était les idoles, soit après on passe dans le monde moderne, où c'est la laïcité, et c'est pas Dieu non plus. Donc ramener la meloucha à Dieu, ramener la royauté à Dieu, ça veut dire qu'il va à nouveau être reconnu comme étant celui qui, avec les hommes, pas tout seul, dirige le monde. Puisqu'il y aura aussi Melech HaMashiach. Et dans chaque peuple, il y aura aussi un Melech, il y aura aussi un dirigeant. Mais Hachem sera roi sur toute la terre et chaque dirigeant acceptera de partager sa direction avec Hachem. Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que Hachem va être roi? Ça veut dire quoi? Ve'aita l'Hachem ha-melucha. Ça veut dire quoi? concrètement. Alors très bien, on va reconnaître que c'est lui qui dirige le monde, mais ça c'est très théorique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pour les nations, par exemple, les nations ne vont pas être soumises, même au moment de la délivrance, aux 613 commandements comme Israël. Comment? Il y a un midrash qui dit, que le Mashiach va rajouter énormément de commandements aux nations. En plus de ce qu'on appelle les sept lois de Noir, bon, qui n'ont plus aucun fondement aujourd'hui, parce qu'elles sont complètement dépassées, mais le Mashiach va enseigner et va révéler aux nations, par l'intermédiaire de la prophétie, Hachem lui révélera des lois qu'il transmettra aussi aux nations. Malgré tout, ce ne sera pas 613 commandements. Ça veut dire quoi concrètement, la Meloucha? Je vais expliquer. Quand on dit que Vaïta Hachem Meloucha, il faut que vous compreniez, mes amis, justement, ce n'est pas le côté religieux, la Meloucha. C'est le côté plus national. Ça veut dire que le monde va être géré par Hachem. Ça veut dire que dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine politique, Vehaïta l'Hachem Amelucha. C'est pas qu'on va devenir plus religieux. Évidemment qu'on va devenir plus religieux, plus croyant, etc. Ça, c'est évident. Mais c'est pas ça la Melucha d'Hachem. La Melucha d'Hachem, c'est que le tikkun du monde va être le tikkun de ce que nous appelons aujourd'hui le monde profane. C'est ça le vrai tikkun. Le tikkun, c'est pas que on va manger plus kasher ou on va mettre 10 paires de tefilines au lieu de une ou de deux. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est pas ça le sujet. C'est que le monde humain, qui est fondé sur le social, le politique, etc., ce monde-là va être dirigé par Hachem. Ça veut dire qu'on va créer des sociétés plus justes, une économie plus équitable, une politique qui ne sera plus corrompu. Il n'y aura plus de mensonges. C'est ça véritablement Vaïta l'Hachem Amelucha. Et c'est ça finalement le véritable combat. Je rajouterai pour terminer quelque chose de très important. Je l'avais déjà dit dans un cours. Et malheureusement, la grande majorité d'entre nous ne le comprennent pas. Qu'est-ce que les nations attendent de nous? Ils attendent qu'on mange kasher. Mais franchement, mais qu'est-ce qu'ils en ont à outre de notre cache-route? Ils attendent qu'on fasse Shabbat. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire de ça? Mais qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Ils attendent de nous une société juste, équitable. Ils attendent de nous des dirigeants qui ne sont pas corrompus. Ils attendent de nous une morale dans la vie, entre parenthèses, qu'on appelle aujourd'hui profane. C'est ça ce qu'ils attendent de nous, les nations.
C'est pas gagné.
Comment? Et c'est loin d'être gagné. Ça veut dire que finalement, on investit dans le mauvais endroit. Comme je dis toujours, j'ai déjà expliqué des milliers de fois cette rencontre entre deux rabbins qui ramènent des gens à la Torah. On a encore une minute ou deux. Il y en a un qui dit « Oh, tu sais ce que j'ai fait moi la semaine dernière? Un pilote de chasse, je suis arrivé à le faire sortir de son avion et je l'ai amené dans une yeshiva. Tu te rends compte comme je suis fort ?» Et l'autre il lui répond « Tu sais ce que moi j'ai fait la semaine dernière? Tu te rends compte? Un pilote de chasse! Je suis arrivé à lui faire rentrer un livre de Tehilim dans son avion. » Vous comprenez? Ça veut dire que là aussi, notre approche, elle est encore une approche galoutique. Évidemment, en galoute, on n'avait que la Torah, que la religion, on n'avait pas de société, on n'avait pas de politique, on n'avait pas d'armée, on n'avait rien. Donc pendant 2000 ans, c'est malheureusement devenu, comme dans notre ADN, que qu'est-ce que c'est un bon juif, quelqu'un qui mange kasher? Non, un bon juif, c'est celui qui est propre dans son travail. Celui qui est un homme qui aime et qui respecte sa femme, qui est fidèle. Un homme qui est un bon citoyen, qui fait l'armée, qui fait tout pour qu'il puisse être un modèle, un exemple dans sa vie, entre parenthèses, qu'on appelle profane. C'est ça ce que le maître du monde attend de nous. Alors évidemment que si on ne mange pas kasher, que si on ne fait pas Shabbat, si on ne respecte pas la Torah, on n'y arrivera pas. C'est évident. Mais arrêtons une fois pour toutes de dire « Oh, t'as vu, il a fait teshuvah ! Il mange kasher aujourd'hui !» Non. Quand c'est que je dirais qu'il a fait teshuvah, eh bien, je peux m'asseoir dans un petit coin de ton bureau, voir comment tu travailles. D'accord ? Ça m'intéresse de voir, t'as un call center, je voudrais voir quand tu téléphones, qu'est-ce que tu vends. Ça, ça m'intéresse. Parce que je veux dire, ta kippa noire sur la tête, j'en ai strictement rien à outre. Hein. Moi, ce que je voudrais dire, ton maaser, comment tu le donnes? Et puis dis-moi, tu gagnes 30 000 euros par mois, tu es dans la high-tech, tu sais que pour des gens comme toi, c'est marqué qu'il faut donner 20%, pas 10%. Hein. Ouais. Si tu gagnes 30 000 euros par mois, tu dois donc donner combien? 6 000 euros par mois. 6 000 euros par mois. Vous en connaissez beaucoup qui font ça? C'est ça, faire teshuva. C'est ça la vraie teshuva. Et malheureusement, on continue à nous mentir avec tous ces discours religieux qui nous font croire que si on mange les méadrines, ça y est, on a fait teshuva. Non. C'est évidemment très important. Moi, je mange les méadrines. Vous ne me ferez pas manger pas les méadrines. Mais je ne considère pas que je suis un bon juif parce que je mange les méadrines. Je suis un bon juif si dans mon comportement, dans la vie de tous les jours, je me comporte comme un homme moral, comme un homme propre. C'est ça ce que les nations attendent de nous. Et c'est ça ce qui ramènera le monde entier à la royauté d'Hachem, quand on sera capable d'être une société qui pourra véritablement servir d'exemple pour les autres. Et je terminerai bien évidemment avec mon humour ashkénaze, l'espoir fait vivre. Parce que je suis ashkénaze moi aussi quand même. Très bien, donc j'ai le droit de terminer par... Malheureusement, je suis ashkénaze. Adkan. Alors, je répète.